Rendez-vous à la radio, le marathon ludique, jusqu'à 18h avec Matt.
Et oui, on a fait une petite pause et on est de retour pour le marathon ludique. Et je suis bien accompagné puisque dans les studios, il y a Florent Coupeau de Nuts Publishing. Bonjour Florent.
Bonjour Mathieu.
Alors Florent, on va parler forcément de tous tes jeux, de la sortie de Gutenberg. Alors Gutenberg, justement, c'est un peu un nouveau Scrabble.
C'est une combinaison de mots.
C'est ça, ça change hein, surtout du Scrabble et c'est plus petit aussi.
Oui. C'est un format A6. Donc en fait, oui, c'est de la combinaison de mots avec un début. Au début, on fait du draft. Hein,
ouais.
C'est-à-dire qu'on se passe les cartes, on en choisit une, on passe à son voisin et ainsi de suite. Et c'est vrai que oui, je pense que ça rafraîchit le Scrabble ou en tout cas les jeux de lettres de manière plus moderne.
Plus moderne. Et comment tu choisis un petit peu, toi, les jeux que tu édites ?
C'est au coup de cœur. Il n'y a pas de règle pure. C'est en fait quand on aime un jeu, que ce soit donc une création en interne, un prototype qu'on nous envoie ou une localisation, donc un autre éditeur, un autre jeu d'un autre pays qu'on reçoit, qu'on connaît.
Mmh.
C'est vrai que c'est. On teste tout, on essaie de vraiment tout tester ce qu'on reçoit, ce qui est long, mais ce qui est intéressant pour plein de raisons. Et quand le jeu nous plaît vraiment beaucoup, on va un petit peu plus loin, mais ça peut être oui des jeux de lettres comme Gutenberg, des jeux un petit peu plus compliqués comme By My Land.
Ouais, qui a eu un gros succès il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus.
Il y a deux ans. L'été 2019. Ouais. Et après, ça peut aller jusqu'à des rééditions de gros jeux comme La Guerre de l'Anneau,
ouais.
Qui est à la base un jeu qui est sorti en 2004. Qui a été dans les numéro 1 dans plein de top à l'époque parce qu'il y avait c'était dans les premiers jeux où il y avait beaucoup de figurines et donc voilà on le ressort en juin de cette année sous une version un peu revue toutes les règles ont été retraduites et bien revérifiées parce que forcément pour un jeu sur le Seigneur des Anneaux il y a plein de mots qui sont à choisir précautionneusement.
C'est aussi long que le film ?
Alors ça dure, il y a un scénario intermédiaire déjà, je tiens à le préciser, on peut couper la partie en deux, mais oui ça dure 3 heures si on veut vraiment tout faire. Par contre ça n'a pas été numéro 1 pour rien non plus à l'époque.
Oui. Hein, et comment tu choisis finalement de rééditer, c'est-à-dire de faire une nouvelle impression du jeu ? À quel moment tu te dis là faut la faire, là faut pas la faire ?
Tu veux dire en termes de localisation par exemple ?
Ouais, de localisation ou toi d'édition ?
Ouais.
À un moment, tu te dis ça s'est bien vendu, mais est-ce que on était au bout ou est-ce que on en refait une quoi ?
Ah, c'est jamais une science exacte. Nous, on a la chance d'avoir quand même pas mal de jeux qui, ce qu'on appelle dans le jargon des long sellers, donc qui se vendent pendant assez longtemps.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on réimprime vraiment beaucoup de nos jeux. Après. C'est les chiffres de vente,
ouais.
Basiquement, qui nous disent que tout d'un coup, il y a plus possibilité d'en vendre assez ou en arriver au bout. Après, je pense à un jeu qui est un petit peu particulier dans le genre. C'est en fait, on a sorti un jeu américain qui s'appelle Red Seven, qui est un petit jeu de cartes qui ressemble physiquement au Uno.
J'ai entendu parler,
qui fonctionne pas du tout pareil. Et en fait, on a sorti une version en breton, Russeis, et on l'a sorti l'année dernière, en fin février.
Ouais.
Et la crise du Covid l'a tué dans l'œuf pour l'instant, parce qu'en fait, on en a quand même vendu un quart de la production, en bretonnec.
Ouais.
Et en fait, notre but, c'était de faire tous les festivals
en Bretagne.
Étant de Quimper, forcément, il y avait le festival de Cornouailles, il y avait le festival interceltique de Lorient et ainsi de suite, mais il y avait aussi le festival de la langue bretonne et tout. Bon, pour nous, on attendra que ça reprenne.
Mmh.
Et puis voilà. Mais en attendant, on en vend quand même un petit peu aux écoles bilingues, aux écoles D1 et ainsi de suite. Donc on aime bien aussi faire des paris comme ça.
Ouais.
On fait des grands jeux longs et on fait aussi des versions en breton.
Justement, on va parler d'un gros jeu, Subterra,
ouais.
Qui est l'une des plus grosses ventes de Nuts.
C'est une belle vente.
Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le principe? Parce qu'il y a une particularité du jeu, c'est qu'il est fluorescent.
Oui, phosphorescent.
Phosphorescent, ouais. Phosphore.
Subterra, c'est un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs. Il dure une heure, après on peut mourir avant, assez souvent, mais c'est coopératif, donc voilà. C'est,
on s'aide.
Ouais. Et en fait, on explore, on est des spéléologues qui sont tombés dans une crevasse, et il va falloir essayer de retrouver la sortie. Et en fait, on va poser ces tuiles au fur et à mesure de son exploration, et comme chacun autour de la table a un rôle bien particulier, il y a un plongeur, un démolisseur, un garde du corps, un chef. Chacun aura sa petite spécificité en plus des actions classiques, d'explorer et de courir et tout. Il y en aura un qui pourra casser des cloisons entre les parois pour essayer justement de trouver la sortie plus rapidement. Et en plus de ça, il y a du gaz, des crevasses, et il y a surtout des horreurs qui sont les monstres de l'affaire et qu'il ne faut pas les rencontrer, il faut les fuir très très vite. Et donc trouver la sortie le plus vite possible.
Alors il y a beaucoup de jeux aussi dans cet esprit qu'on retrouve sur Kickstarter. Kickstarter, justement, est-ce que c'est l'avenir du jeu pour toi ?
Alors déjà, Kickstarter, ça commence à faire un peu de temps que c'est une plateforme de participative.
Il faut expliquer c'est les gens y payent avant de recevoir leur jeu qui arrivera peut-être un an après.
C'est vrai, même des fois plus. Mais oui,
des fois plus.
On va dire un an. Et alors c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que forcément, ça fait de la vente directe. Donc quand on a un gros jeu à sortir et qu'il faut beaucoup de trésorerie, ben, ça permet d'avoir cette trésorerie-là. C'est un site américain, donc ça a aussi l'avantage de faire de la promotion à l'international. Et donc en fait, là, on va recevoir, j'ai approuvé les fichiers cette semaine, alors c'est pour ça que je suis content. On a sorti un Kickstarter qui s'appelle Minirogue, donc sur un projet qui s'appelle Minirogue. Il y a eu 5000 personnes, donc ce qui est très bien. Et le jeu va arriver en juillet, et grâce à ça, on a la trésorerie pour publier notre jeu.
Ouais.
Et en plus de ça, on a été contacté par plein d'éditeurs étrangers qui ont trouvé le jeu très bien et veulent le publier dans leur langue. Jamais on aurait réussi à avoir ça sans Kickstarter.
Ouais.
C'est pas possible.
Donc, c'est un jeu, je crois que tu n'avais pas montré ce jeu à Cannes l'année dernière ?
Si, exact.
J'avais vu une vidéo là-dessus.
C'est vrai.
Justement, les festivals, il n'y en a pas cette année. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus dans le festival aujourd'hui ? C'est... de découvrir des nouveaux jeux, de présenter tes jeux, de voir tes copains éditeurs.
Forcément un peu tout, parce que faut pas se leurrer. C'est en général, on part pendant quasi une semaine quand on s'en va en festival, le temps d'arriver avant, de préparer, de repartir en ayant tout nettoyé. Forcément, il y a l'esprit d'un festival. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil qu'un festival quand on va à un festival de musique, mais il y a cet esprit-là où forcément le soir, on est content de se poser avec ses animateurs et tout. Il y a le fait de rencontrer les joueurs, tout simplement, de pouvoir discuter avec eux et de mettre un visage derrière certains noms, de rencontrer des inconnus qui tout d'un coup s'arrêtent à notre table, ne connaissent aucun jeu, et leur faire découvrir un jeu et ils se disent « Ah tiens, c'est pas mal ça !» C'est vraiment super chouette. Le fait de faire plein de rencontres complètement inattendues, c'est vraiment, vraiment cool. Et ça fait un an maintenant, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de pas en avoir. Ouais.
On parle aussi, chez Nuts, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeux solo.
Ouais.
Est-ce que c'est le fait... Alors, c'est pas l'effet du confinement, parce que les jeux étaient sortis, sortis avant. Ouais. Est-ce que c'est là-dessus que t'as envie d'aller ?
Alors, je pense que ça vient d'une réalité au début, c'est que quand on a commencé à s'élargir aux jeux de société, parce qu'à la base, on fait des jeux historiques, des wargames, et les wargames, c'est toujours à deux joueurs, ça n'a pas trop d'intérêt autrement. Et on jouait chacun de notre côté au jeu.
Ah bah oui.
Donc, avoir un mode solo, c'était quand même vachement plus facile. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'est aperçu que nos jeux avaient systématiquement un mode solo, en étant 2, 3, 4 joueurs. Et là, actuellement, c'est vrai qu'on essaye de développer des modes solo pour tous nos jeux. Alors, quand c'est des localisations, donc d'autres éditeurs, on ne peut pas forcément le créer parce que soit on n'a pas le droit ou ça ne marche pas. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on, pour nos jeux à nous, on essaye de développer des modes solo systématiquement pour plusieurs raisons. Hein. Un, on aime bien ça.
Ouais.
Deux, il y a le confinement. Mmh. Et donc, bah, c'est apprécié des joueurs. Et puis, c'est vrai que, ouais, il y a toujours un moment où, même si on joue à 2-3, alors ce qu'on essaie de faire dans nos modes solo à nous, c'est qu'ils ne procurent pas la même expérience de jeu que les modes multijoueurs.
D'accord. Ah,
c'est pas toujours facile à faire, mais on n'a pas envie que ce soit un mode solo gratuit. C'est-à-dire que typiquement, tous les jeux coopératifs, style Subterra, c'est pas très compliqué en fait de faire un mode solo. Parce qu'un mode coopératif, c'est on joue tous ensemble.
Ouais.
Ben, si tu joues en solo, tu prends plusieurs personnages.
Ouais.
Et puis voilà, t'as la même chose. Nous, on essaye de ne pas faire ça.
D'accord.
On essaye de faire un, typiquement un, quasiment un autre livret de règles.
Ah oui.
Avec d'autres façons de jouer. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on essaye de tendre.
Alors, on a parlé donc de l'ADN du wargame et tout ça. Est-ce que Nuts va arriver un peu sur le jeu enfant?
Non, alors enfin, je pense pas dans pas tout de suite. Non, parce que on s'est déjà pas mal étendu, c'est-à-dire que des jeux comme Gutenberg, Red Seven,
ouais, ça serait pas sorti avant.
Ah non, clairement que enfin, j'ai pas dévoilé beaucoup de secrets que quand j'ai montré Red Seven à mes collègues, ils m'ont dit tu veux vraiment sortir ça? Et j'aurais dit bah ouais, c'est vachement chouette, vous allez voir, ça dure 5 minutes. Vous allez voir un peu comment c'est. Et en fait, ils ont joué. Et puis, une demi-heure plus tard, ils m'ont dit, oui, c'est évident. C'est évident. L'avantage de Red Seven, c'est que ça a l'air simple. C'est pas simple. C'est un peu comme la belote. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes, sauf que l'ordre des cartes est un peu différent d'habitude. Enfin, c'est vraiment pas comme un Uno. Ça ressemble à un Uno, mais c'est pas un Uno. Et en fait, le côté pas immédiat, rentrait bien dans notre ADN. C'est-à-dire que nous, on fait en général ce qu'on appelle des jeux experts. Red Seven a l'air d'un jeu simple.
Ouais.
Il faut une ou deux parties pour rentrer dedans, c'est pas immédiat. Par contre, une fois qu'on a fait les deux parties, c'est complètement addictif, mais vraiment à un point... Y a, là non plus, faudrait que, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais les manutentionnaires de notre distributeur, BlackRock, ils jouent tous les midis.
D'accord.
Parce que c'est hyper addictif. Et ils tiennent des tableaux de score dans leur salle de pause. Donc, c'est vachement gratifiant pour nous. Quoi. Ouais, c'est cool.
Justement, on parlait de BlackRock Games. Ouais. C'est une grande famille, la famille BlackRock.
Ouais.
Ça aurait été la fête à Cannes avec deux As d'or.
oui, clairement. Ouais. Il se trouve que j'ai eu Johan, un des patrons de BlackRock ce matin, et c'est clair que oui, deux As d'or sur trois, c'est énorme.
Justement, qu'est-ce que tu penses du jeu qui a eu l'As d'or, Micro Macro Crime City?
Ben, pas grand-chose, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer pour l'instant.
D'accord.
Mais forcément, oui, ça donne envie d'essayer, parce que c'est pas forcément parce qu'il a l'As d'or, mais c'est parce que beaucoup de gens l'apprécient.
Mmh.
Donc c'est vrai que il va falloir que...
Puis c'est un peu un ovni qui est arrivé comme ça dans le monde ludique.
Ouais, complètement. Il y a déjà eu des As d'or comme ça, ou des jeux qui ont eu des récompenses, et qui étaient justement des jeux atypiques. Et c'est cool, ça demande justement pour nous éditeurs, et pour les auteurs aussi, d'essayer de se renouveler, de trouver d'autres mécanismes. Donc c'est chouette, c'est chouette.
Quel jeu t'as joué cette année, t'as bien aimé? Enfin, cette année plutôt, en 2020, parce qu'on est au début de l'année.
Je vais être franc, je teste tellement de proto
que
j'ai pas beaucoup le temps de jouer à autre chose. Alors heureusement, notre équipe est relativement grande, alors avec tous nos copains et tout, on va dire que je me fie à leurs avis principaux, parce que je suis aussi développeur des jeux, on rejoue au même jeu encore et encore pour essayer qu'il soit bon. Donc j'ai malheureusement pas le temps.
Et ben justement, on va parler d'un jeu de Gros Games, Nidavellir, qui aurait pu être aussi avoir une nomination pour Cannes, un très très bon jeu.
C'est clair.
D'ici quelques minutes, on va retrouver Florian de Gros Games. Et Florent, toi tu restes dans le studio parce qu'en plus je crois que c'est un de tes copains.
Hein. Oui.
Donc on va discuter un petit peu en respectant bien sûr le temps. À tout de suite. Sur